Comment on débarrasse ? Bonjour et bienvenue.
Bonjour et bienvenue.
Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans le Bro Clash. Le...
Attends. Ça c'était long.
Bonjour et bienvenue dans le Bro Clash, le podcast des bros qui se clash, épisode numéro 34. Et oui, on continue la numérotation malgré...
Deux ans,
voilà.
Juin 2020, le dernier épisode.
Juin
on a
2020.
Fait le spécial Bébel. Le
hors série
Bébel
en post-confinement.
En novembre 2021.
Parce que maintenant, j'ai vu que tout le monde se datait par rapport au confinement. Au premier ou au deuxième, voilà.
Il y avait la naissance de Jésus, il y aura le premier confinement.
C'est ça, voilà. Et puis, ça nous manquait. Après, il faut organiser tout. Et puis, il ne faut pas se le cacher, on enregistre en avril 2022.
Oui.
Nous revenons d'un week-end à Podren 2022, que je vous recommande de faire Podren 2023, et même le podcast qui aura lieu, je ne sais pas trop quand. Allez sur le site de badgeek.fr ou .com, je ne sais pas, on mettra les liens. Mais du coup, ça redonne envie de faire du podcast, évidemment.
Évidemment. Voir
plein de gens. C'était très bien.
Voilà. Alors moi, je triche un peu, puisque moi, j'ai repris un autre projet, un side project, comme on dit.
Qu'on dira à la fin, on fera la pub à la fin.
On revient, pourquoi ?
Pourquoi ? Pour une fois plus se clasher. Alors, on vous avait expliqué qu'on allait, je crois, dans l'épisode précédent, allait faire des formules que nous allons reprendre. Et puis, on vous les expliquera à chaque fois. Mais on va faire des épisodes solo. On va faire des épisodes où on est d'accord, des épisodes où on n'est pas d'accord, des épisodes où on est d'accord pour dire que c'est nul.
On n'a pas oublié les nouveaux formats qu'on voulait faire. Que ce soit le bro crash, quand on est tous les deux d'accord sur un mauvais film. Peut-être qu'on en fera un sur The Batman, on ne sait pas.
Peut-être.
Les bro cash, quand on est amoureux tous les deux d'une œuvre, mais on a aussi des fois des envies de vous parler de trucs où des fois on n'a pas le temps ou trek et qui vont s'appeler des one bro où il y aura ou Laurent ou moi Arnaud donc pour vous parler d'une œuvre et vous la de ça des formats un peu plus courts ceux-là
c'est le but aussi quand même
ce qui seront largement en dessous de l'heure simplement vous la présenter, vous dire pourquoi on l'aime et vous dire pourquoi on la recommande. Qu'est-ce qui pour nous justifie le fait de la recommander.
Tout à fait.
Ce sera donc des One Bro Arnaud, One Bro Laurent. Vous, ça va apparaître tôt ou tard, mais ça va apparaître.
Globalement, le One Bro sera toujours sur des choses qu'on aime. Hein. On va pas faire du One Bro tout seul pour.
C'est des.
Pour tracher des trucs. Pour tracher des trucs qu'on se met à deux, c'est beaucoup plus rigolo.
Exactement.
Donc voilà.
Comme pour le quand on les adore, on peut aussi se mettre à deux. Hein.
Tout à fait. Alors, comme d'habitude, il y aura toujours des coups de cœur dans les émissions.
On va
commencer par ça. Et puis, alors non, on n'a pas donné le sujet du broclash.
Aujourd'hui, on va parler des X-Men. Où sont les X-Men dans le MCU ?
Tout à fait.
Entre autres choses.
Voilà, ce qui va nous permettre de parler des X-Men et de l'autre groupe un petit peu connu du MCU qui doit s'appeler les Avengers.
Les quoi ?
Les Avengers.
Ah, ceux de la côte Est ou de la côte Ouest ?
Alors voilà, ça on en reparlera à mon avis parce que... J'ai découvert un jour les Vengeurs de la côte ouest, je comprends pas, j'ai toujours pas compris.
La côte est avec Doctor Strange.
Mais avant, place au coup de cœur et c'est parti.
Mutation, it is the key to our evolution. It has enabled us to evolve from a single-celled organism into the dominant species on the planet. This process is slow, normally taking thousands and thousands of years. But every few hundred millennia, evolution leaps forward.
Alors, mon coup de cœur à moi, c'est la série Arcane, adaptée du monde de League of Legends, sur Netflix.
C'est pas un truc de geek, de millennial, League of Legends ?
Alors, je n'ai aucune idée de ce qu'est League of Legends.
Alors, je crois que c'est un...
C'est un jeu...
C'est un POV, comment ils appellent ça ? Un player to player, player versus player, ou c'est des groupes, je ne sais plus trop.
Alors, c'est un jeu...
En ligne ?
C'est un jeu en ligne, qui est un jeu qui est très, très utilisé en e-sport.
Là, on est en train de montrer à quel point on est vieux. Hein, voilà, parce que ne avoir aucune idée de ce que c'est que League of Legends, Blackbank, c'est un jeu en ligne.
Je connaissais...
Effectivement, très présent en e-sport, c'est vrai.
Très, très présent en e-sport. Que j'ai vaguement j'ai dû voir une fois un truc d'e-sport mais j'ai pas trop relevé ce que c'était. Je ne connaissais même pas l'univers, mais quand j'ai vu la bande-annonce et le côté un peu steampunk, je vais avouer que ça m'a énormément titillé, moi qui aime beaucoup l'univers steampunk. Et du coup, j'ai regardé et j'ai surkiffé. En plus, c'est visuellement incroyable, une super réussite. J'ai aucune idée ce que c'est comme technique parce que on durait du cel shading mais avec une vraie 3D. Donc c'est vraiment, c'est très 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 beau, les lumières sont magnifiques, enfin, tout est ultra maîtrisé.
J'ai beaucoup entendu ça.
L'intrigue.
J'ai beaucoup entendu ça. Visuellement, ça, je vais faire C'est un gros pavé parce que j'ai vu des images rapides sur Netflix, mais je l'ai pas regardé du tout la série. Ça rappelle pas Dofus ou Wakfu comme ambiance, je trouve. Moi, alors, y avait un... Je sais pas, ça m'avait fait penser une espèce de dessin animé.
Non, visuellement, c'est encore un cran au-dessus en termes de rendu visuel, en termes
de. C'était fait en flash dans mes souvenirs, les premières saisons de Wakfu.
Non, les premières saisons, les premiers jeux Wakfu étaient faits, les petites animes étaient faites en flash. Mais flash, putain, il y a des années de ça.
C'est pareil. Hein. Toi qui a moins de 20 ans et qui fait de l'ordinateur, tu n'as jamais entendu parler de Flash.
Si Ron t'entend, il va te dire, ça va le faire rire. Ouais. Justement, dans Wakfu, ça démarrait, c'était pas vraiment avec du Flash, mais ça s'inspirait d'une technologie vectorielle, plus ou moins inspirée de Flash.
Là, pas du tout.
J'ai aucune idée du moteur graphique derrière la série Arcane.
T'as un équivalent
connu? Non, justement, c'est ça. Visuellement, je ne vois pas d'équivalent. J'ai vu récemment aussi le début de la deuxième saison de Pacific Rim Black sur Netflix aussi.
Ils ont fait un dessin animé Pacific Rim
Qui est plus intéressant que le deuxième film, en tout cas, déjà.
Ouais.
Et qui est moins long, parce qu'il n'y a que 6 épisodes. Le film est long.
T'as vu des trucs genre Shin Godzilla?
Oui.
C'est pas un peu dans...
Non, c'est pareil, on n'est pas dans le même rendu. Il y a vraiment un rendu très particulier que j'avais rarement vu.
Il y a moyen aujourd'hui d'avoir un vrai style graphique que du coup, c'est les dessins animés qui n'arrivent pas à avoir de style, c'est qu'ils font pas d'efforts. En fait.
J'ai vu passer aujourd'hui aussi un très très bon article, justement, les technologies en termes d'animation atteignent un point où on a un style et on peut vraiment faire énormément de choses. Le style compte tout quand vous voyez des choses comme Gumball par exemple.
Ah oui, j'adore visuellement.
Ou Gravity Falls, malgré les apparences et son traitement un peu dans un style très identifiable, en vérité, c'est extrêmement.
C'est fouillé, je trouve.
Fouillé, travaillé comme. Voilà. Et on est sur des. La technologie atteint un point où on retrouve le numérique et le côté digital. Non, ça n'existe pas. Le côté justement numérique. En full ordinateur ou avec la perte de la main, on commence à atteindre suffisamment de complexité, de capacité de calcul pour créer des styles graphiques sur ces outils-là.
Alors que dans Oggy, les cafards, ça se voyait que la maison était...
Elle était en 3D, pas Oggy.
On voyait vraiment les écarts. Après, c'est normal. Les premiers dessins animés des années 80, de la milieu des années 90 de Disney, qui sont Aladdin, c'est horrible parce que on regarde ça et on voit le numérique. Enfin, on voit la partie ordinateur, on voit la partie dessinée. Et maintenant, c'est plus du tout vrai. Effectivement, ils arrivent à avoir
partie dessinée.
Il y a plus de partie dessinée, mais du coup,
Au sens traditionnel, on n'est plus sur des couches de layout non-stop. Enfin voilà. Donc mon coup de cœur, cet univers est incroyable.
Et t'as pas eu besoin de connaître League of Legends finalement.
Bah non.
Et alors tu dis c'est steampunk.
Ouais, pour moi, c'est du steampunk. C'est du steampunk fantasy. Je sais pas comment le qualifier autrement.
C'est-à-dire qu'il y a des sorciers. Alors,
il y a un peu de côté magique, mais il y a une technologie qui relève plus de la du steam. Et vraiment, ça aussi, je trouve en plus le caractère design, les styles.
Dire une connerie, ça raconte quoi en fait?
L'histoire de deux sœurs qui vont être séparées par des enjeux de magie justement et de nouvelle énergie parce qu'ils ont besoin d'une nouvelle énergie pour faire croître et continuer l'expansion des villes. Pour faire très très simple, parce que je ne vais pas vous spoiler plus.
Non, mais bon.
Et là-dedans, ça affronte plein de pouvoirs. En plus, j'ai vraiment trouvé qu'en termes d'écriture, alors ça ne révolutionne pas le public, mais je trouvais que c'était quand même bien plus malin que ça aurait pu l'être, vu, entre guillemets. Alors, comme je ne connais pas du tout l'univers, c'est vrai que c'est...
Conseiller à quel âge?
Ceux qui s'intéressent à ce type d'univers...
c'est pas hyper violent.
Alors, il n'y a pas de sang. Enfin, y a des gens qui ont des problèmes physiologiques, mais ça ne se traduit pas nécessairement avec du sang. Donc,
on va être cash, est-ce que tu l'as vu avec un enfant
Alors non, celui-là, je n'avais pas vu avec les enfants pour le coup.
Ah oui. Et tu t'es pas dit que tu allais le montrer à ton fils?
Je me suis dit que je le montrerais bien à Tristan, donc 9 ans. Donc ouais, si, non, je vois pas trop de soucis avec ça. Les personnages sont
pas
jeunes
pour les enfants
en plus.
De 5 ans, mais parce que c'est des intrigues. Mais comme l'était Wakfu, dans des intrigues un peu complexes, complexes à suivre en histoire. C'est peut-être plus complexe.
C'est plus complexe. Ouais. Wakfu offrait un truc que j'ai toujours trouvé génial, qui est un univers qui est entièrement accessible. Tout le monde peut s'amuser, mais les intrigues principales étaient extrêmement. Elles n'étaient pas compliquées,
Une espèce de shonen avec des. Oui, par contre, c'est un espèce de shonen. Alors, pareil, c'est feuilletonnant ou c'est tout de suite?
Alors, oui, non. Alors, c'est extrêmement. C'est extrêmement. Ça se suit. La première saison se suit en entier. Et le début de la deuxième, que je n'ai pas encore tout à fait fini. On a une ellipse entre la première et la deuxième saison. Il y a du temps se passe. Donc, on recontextualise à nouveau au début de la deuxième saison. Et rien que pour ça, je trouve que c'est tellement un pari que j'aime bien. Moi, il y a plein de choses qui me plaisent. Donc
redis, c'est sur Netflix.
Donc, c'est Arcane sur Netflix, la série adaptée de League of Legends.
Et moi, je vais vous parler pour mon coup de cœur. Bah, évidemment, alors on a fait, je crois, un épisode au moins sur un des films ou sur le monsieur, je ne sais plus.
Sur le monsieur, nous avions fait.
Mais comme on ne s'est pas vu, est sorti en 2021 sur des plateformes, notamment Amazon Prime, puis OCS. La Zack Snyder's Justice League. Alors, des films avec le nom de leur réalisateur dedans, c'est très très rare. Évidemment, quelque part en 2017 sortait
le Justice League de Joss Whedon,
qui est malgré tout marqué réalisé par Zack Snyder, enfin voilà, avec une histoire de production qui mériterait à elle seule, à mon avis, un documentaire de 2 heures qui vaudrait, à mon avis, largement Au cœur des ténèbres, qui est le documentaire sur Apocalypse Now, ou L'homme qui tue à Don Quichotte, qui est le documentaire sur le Lost in La Mancha de Terry Gilliam. Tellement cette histoire qui mélange l'état des studios hollywoodiens aujourd'hui, des drames personnels, parce que Zack Snyder a perdu sa fille qui s'est suicidée.
En fin de tournage.
Tournage qui se déroulait au moment où sortait Batman v Superman, qui était très mal apprécié parce qu'au moment où Marvel, dont on va parler tout à l'heure, mais enfin voilà, il y a tout dedans. Il y a l'hégémonie de Marvel et de Disney. C'est une histoire vraiment qui raconte.
Voilà. Un documentaire sur la genèse du film serait tout
un
aussi intéressant.
Incroyable,
que les 4 heures de
Justice League. d'un fandom, comme on dit, qui se mobilise, des acteurs qui se mettent à leur donner leur avis alors que ça n'arrive jamais. Des rumeurs.
Plus que donner leur avis, qui sortent des images de montage qu'on n'avait pas vu.
Même pendant des mois, il y a des concept art qui sortent, etc. Et pour dire non, mais elle n'existe pas, la moitié des gens, moi y compris persuadés que mais non, c'est pas possible qu'on refasse un film complet qui est sorti, ça n'arrivera jamais. Et puis, je pense qu'en fait, le Covid y a joué, en fait.
Oui.
Parce que tout d'un coup, le Covid arrive, HBO Max a une plateforme qui se met en ligne.
Warner, une plateforme. HBO
Max. Qui s'appelle HBO Max, pardon, Warner. A une plateforme qu'elle essaye de vendre, où il faut déloger un peu Netflix, en fait, c'est ça, hein, voilà. Et qui se dit, mais attends, putain, j'ai ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le sortir alors qu'il ne sort pas en salle ?
En pur marketing, il cherchait un produit d'appel pour valoriser HBO Max.
Et il est recontacté, il raconte ça un petit peu en interview, il raconte ça, et tout d'un coup, il se dit, et il commence à dire, bah oui, ça y est, je vais le faire, je vais sortir ma version de Justice League. Et puis, alors là, il y a eu des rumeurs sur le nombre d'épisodes, sur que ça allait durer, sur machin, sur qui ce qu'il y allait avoir.
Non, c'est pas des rumeurs, il y a d'abord eu des déclarations disant, il fait le film, après. Ça va être une série de films, ça va être présenté comme une série, et au final, c'est chapitré, mais c'est d'un seul tenant.
Donc finalement, ça sort, c'est arrivé en France, d'abord sur Amazon Prime à la vente, puis sur OCS disponible, et évidemment, on comprend. Alors, en fait, il faut être simple. Si vous avez aimé Man of Steel et Batman v Superman, vous adorerez la Justice League, Zack Snyder, c'est l'exacte suite. Les trois films forment un ensemble cohérent. Où on comprend sa volonté, son style, comment lui voit le super-héroïsme, et c'est passionnant. Alors, ça dure 4 heures. Moi, je l'ai montré à des gens qui n'étaient pas forcément hyper férus de ça, qui avaient aimé Man of Steel, par exemple, et qui avaient aimé aussi Batman v Superman. C'est vraiment... et on comprend ce qu'il fait. Ça veut dire que ça s'ouvre sur la fin du précédent. Voilà, il y a vraiment... Voilà.
Exactement comme BVS.
Il va creuser, tout à fait comme BVS s'ouvrait sur
sur
la fin de Man of Steel. Il va creuser tout son univers, il va remettre au goût du jour des personnages, Cyborg, Aquaman, il va des ambiances, enfin, c'est du Snyder. Alors après, le film, pas sans défaut, moi je trouve que bon, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai, et à la fois, c'est vraiment chapitré. Donc ça se regarde très bien, ça peut se couper sans problème.
C'est très facile de faire des coupes. Je rappelle d'ailleurs à propos de la question du chapitrage, même si fourni en tant que tel, je suis un petit peu d'accord avec la remarque de Draven dont il a parlé récemment
dans leur
24 FPS et dans leur top 2021, qui disait quand même, le film est long,
oui.
C'est très long, 4 heures des brouettes. On sent quand même que cette fois-ci, la Warner, ils ont fait, tiens, voilà le pognon, fais ce que tu veux.
Oui,
et que du
complètement.
Coup, il n'y a pas non plus de contrepoids dans la décision. Au film.
Peut-être
par
qu'il
contre,
a fait un peu trop ce qu'il voulait. Voilà. Enfin, bon, qu'il a pas été.
Par contre, je rappelle que dans le planning originel, il y avait 2 films Justice League.
Oui, c'est vrai.
Donc potentiellement, il y en a même 3 dans la lande prévue. potentiellement, on peut très bien imaginer qu'on a là la partie 1 et la partie 2 de ce qu'aurait été le film Justice League.
Évidemment, le méchant n'est pas... Ce qui est fou, c'est de se dire que... Moi, je vous conseille de le voir, évidemment, et de revoir celui de 2017.
Seulement si vous pleurez pas des larmes de sang.
Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les mêmes images... Parce qu'il y a beaucoup d'images... Il y a des images en commun. Pas tout, mais il y a des images en commun. Comment on voit tout de suite ce qui est retourné. Comment on voit la volonté qu'a eu Whedon, poussée par le studio. Je ne défonce pas Whedon spécifiquement. On lui a demandé de faire du Marvel, en fait.
Il a fait ce qu'on lui a demandé.
Il aurait demandé de faire
des blagues. On ne parlera pas de l'attitude qu'il a eu après la question du tournage.
Mais on lui a demandé de faire du Marvel, de faire des choses drôles et tout. Et de voir comment chaque même scène... moi, j'ai fait un test avec un proche à moi, qui fait du podcast avec Michel Dard, d'ailleurs. Je lui ai montré les 10 premières minutes de chaque film. Et il m'a dit, c'est carrément pas le même film. Et en fait, la note d'intention des 10 premières minutes est vraiment fondamentale sur c'est pas le même film. Le méchant n'est pas le même. C'est quand même ouf. Alors, si.
On a fondamentalement la même intrigue. Visuellement. Mais on n'a pas du tout. Alors, non, je parle même pas artistiquement. Alors, on a fondamentalement la même structure, la même intrigue, mais on n'a pas du tout la même note d'intention. Bah, et ça change complètement le traitement de l'histoire. Et c'est en ça que je suis pas du tout d'accord avec certaines critiques qu'on a pu entendre sur ce film qui disaient c'est le même film, c'est juste pas raconté pareil.
Pas du tout. Alors, pas
oui,
du tout. C'est
le fait
pas,
de pas raconter pareil change tout.
Et savoir du format. Ce que je trouve ça hyper intéressant quand on est fan de cinéma, comme on l'est nous, comme vous l'êtes à mon avis si nous écoutez, c'est que vraiment on voit ce que c'est que monter un film et comment on dit toujours qu'un film s'écrit trois fois à l'écriture, au tournage et au montage. Et c'est phénoménal de voir ça. C'est phénoménal de voir que le film il est réécrit au tournage et au montage, et voilà. Et ça change tout. Ça ouvre même un univers différent. Il laisse des pistes pour la suite.
Le Dark
Side. Est-ce que ça se fera pas? Le super méchant, le Flash, on verra les connexions qui se fera avec Flashpoint. Fin. Et je pense que ça a remis Warner et DC. Je dis pas qu'ils vont... En fait, ils vont pas se consacrer que ça, parce qu'on a parlé de The Batman qui a très bien marché, on a parlé de Joker et tout, mais je pense qu'ils peuvent se dire, ok, on fait tourner ça, ça fonctionne, et finalement, il avait fallu 3 films, là où effectivement, la construction de Marvel a fonctionné, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'ils ont présenté plein de gens, puis à un moment, ils ont réuni tout le monde, mais du coup, il y a vraiment quelque chose, voilà, mais il faut le voir, c'est un objet cinéma vraiment beau, moi je trouve vraiment avec un ton hyper particulier, Aquaman... qui avait cartonné, y est lié. Le Shazam, je crois, y est lié. Donc, il y a encore. Je pense que ça va permettre à DC de générer un univers partagé, un peu à la Marvel. Et puis, à côté, ils vont s'éclater, ils vont faire des trucs comme ils le sentent. Mais je pense que ça a quand même relancé DC parce que ça lui a redonné une crédibilité. Alors, c'est pas parfait, hein, mais DC, en fait, finalement, aujourd'hui, il refonctionne tout à fait. Donc, c'est à voir. C'est même d'ailleurs. Pour finir, on va pas s'étaler, le format. En fait, le format n'est pas le même. Le format de l'image n'est pas 100%. Le même. Et non, et c'est surtout, c'est un format carré.
Alors, c'est l'IMAX. Et c'est très c'est bizarre. C'est l'IMAX 100% pour... Non, alors c'est marrant, ça. Alors, c'est marrant.
C'est une volonté qu'il a de j'allais dire déifier, mais c'est ça.
De statufier
ses héros.
Ça change énormément les perspectives que tu as dans tes plans dans ces cas-là. Mais là où c'est extrêmement techniquement et malin, c'est que il faut imaginer que le scope en numérique, fondamentalement, ça n'existe pas.
Oui, enfin le numérique...
Parce que les capteurs sont carrés.
Oui, effectivement.
Et l'IMAX plein pot, ce qu'on appelle l'IMAX plein champ, c'est un carré. Il faut savoir que la plupart des films qui sont tournés en IMAX sont tournés avec des formats, ont une captation d'image carrée et on ne garde que le format scope ou le format 16-9 qu'on veut ou 16-10 que l'on veut garder dedans. C'est tout. Mais il faut imaginer que le reste existe au format carré. Fondamentalement, le signal est carré. Ce que fait Snyder, il garde l'intégralité. Et bien évidemment, il le prend comme une signature artistique. C'est un choix. On peut ne pas être d'accord avec. Ça fait des plans... Moi, j'aime bien la construction de certains plans.
Mais on voit...
c'est assez ouf.
Et puis la couleur, on peut dire. Alors,
ouais, ah oui,
c'est
le traitement de la colorimétrie. Ouais.
Regardez les deux. Hein. Enfin, voilà. Il y a même des vidéos. Je crois qu'il y a une vidéo de Durandal. Non, je ne suis pas un fan spécifique, mais qui discute avec quelqu'un des différences. Mm-hmm. C'est intéressant. Mais vraiment... Je trouve que ce film, outre d'être un film passionnant, le Zack Snyder Justice League, d'être un film que j'aime voir, est un film qui, avec ces deux versions, raconte quelque chose de passionnant sur l'univers d'Hollywood aujourd'hui. Donc voilà mon coup de cœur, Zack Snyder Justice League, à voir sur vos plateformes.
Et nous allons donc passer au clash, mais où sont les X-Men ?
Où sont les X-Men? Le MCU bat son plein, nous venons de terminer la phase je sais pas combien. Petit fun fact intéressant, il y a eu les périodes de Covid, les cinémas fermés, 2020-2021, très compliqué. Les embouteillages de films tournés
à la réouverture des salles.
Réouverture. Et j'ai donné un petit exemple qui va nous bumper quelque chose. Sont sortis côte à côte deux gros projets très attendus, très différents. West Side Story par notre ami Steven Spielberg, relecture de la comédie musicale, pas du film, de la comédie musicale originale, et Spider-Man, No Way Home, qui a écrasé la concurrence.
De milliards.
Qui a rapporté effectivement énormément, qui a, par exemple, le film de Spielberg qui fait West Side Story, voilà, défoncé.
Alors,
dérouté. Et du coup, très. Alors, et je vais faire un petit parallèle, ça va nous faire démarrer. Donc, Marvel MCU revient en force. Il revient en plus en faisant de la nostalgie parce qu'il y a l'intervention des deux Spider-Man originaux, etc. Machin, blabla. Mais c'est un carton. Ce qui est très marrant, c'est que personne ne sait qui l'a réalisé. Le mec, il n'est pas connu. Comme d'habitude chez Marvel. Il y a
John
eu entre temps. Ouais, bon, voilà. Il y a
eu entre temps. Celui qui a fait les autres Spider-Man pour le MCU.
D'accord, on est dans la phase 4. Effectivement, pardon.
Phase 4, la nouvelle saga, la saga du multiverse.
Probablement, où nous avons eu Black Widow, que j'ai pas. Que non. Shang-Chi, pour attraper le public asiatique. Les Eternals, avec une réalisatrice oscarisée.
Chloé Zhao.
Voilà, et le No Way Home, où finalement, quand ils font des vieux pots dans les soupes, ça cartonne.
Des vieux pots dans les soupes.
Ouais, enfin bon, bref, quand ils remploient le vieux truc. Parce que voilà, parce que cet univers qui a bientôt 20 ans, je pense. Non, 10 ans, je te dis. Enfin.
Non.
Non, tu as raison, mais en fait, ça dépend si on situe le.
Le premier Iron Man, c'est 2008. Donc,
2008, 2018, 2028. Non, il a 15 ans.
Il a 15 ans. Ils ont fêté les 10 ans sur le Endgame.
Voilà.
Sur le Doctor Strange.
Donc, est vraiment en phase maintenant avec des séries, des choses dont on reparlera sûrement un jour. Il n'empêche que. Eh ben, on n'a toujours pas de X-Men.
Oui.
Alors, avant, il y avait des problèmes de droits.
Alors, voilà. Avant, il y avait des problèmes de droits. Mais Marvel a été racheté par Disney. Et Disney a racheté la Fox.
Il y avait des problèmes de droits avec Spider-Man aussi, d'ailleurs.
Alors, je vais pas refaire toute l'histoire du Spider-Man. Bon. Et non, mais paradoxalement, le fait qu'on ait trois Spider-Man dans ce film-là, c'est aussi lié au changement de deal qui a été renégocié entre Disney et Sony. Et c'est pas anecdotique, parce que ce film-là ne pourra plus se refaire.
Probablement.
Parce que Sony a modifié le deal, il a gardé les droits sur des films, ça ne pouvait fonctionner, ils n'ont passé un accord que pour ce film-là. C'est pour ça qu'ils font Venom, qu'ils s'apprêtent à faire Carnage, qu'ils font aussi Morbius. Morbius, c'est même pas un film. Mais voilà quoi. Sony n'a accès qu'au Spider-Verse et ne sait pas. Et sauf que même Marvel est très emmerdé parce qu'elles veulent pas les surexploiter, qu'ils puissent surexploiter la licence en essayant de se raccrocher à leur MCU. Faut savoir. Donc voilà.
Et donc, pas de X-Men.
Donc pas de X-Men ou très peu, ou d'autres films qui étaient à la Fox, qui ont donc été ramenés parce que avant d'acheter Marvel, Disney avait racheté la Fox.
Oui, alors ils ont racheté le catalogue, je ne sais plus comment.
Ils ont racheté la Fox, point. Voilà. Ils l'ont racheté en entier, comme ils ont fait avec Marvel, ils ont tout racheté.
Pour moi, le dernier X-Men que j'ai vu pas dans le MCU en fait, dans un film à part, c'était autour de Deadpool.
C'est officiellement le dernier film X-Men, c'est Deadpool 2.
D'accord.
C'est pas une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alors sinon, il y a eu le film Les Nouveaux Mutants, qui est sorti en 2021.
C'est pas été un four ce machin.
Qui a été un four total. Mais qui est sorti entre deux vagues de confinement.
Qui était un truc de production en plus.
Qui était un vrai bordel, qui aurait dû sortir en 2019, je crois. Enfin, qui a un historique assez bâtard. Qui a été retourné en partie.
Mais où sont Wolverine, Professeur Xavier, Magneto?
Alors après, si on remonte aussi loin, le dernier film n'avait officiel des X-Men, c'est Logan, qui est un chef-d'œuvre.
Ah oui, c'est vrai.
Qui est un bon chef-d'œuvre.
Je pensais que tu allais dire Apocalypse. Maintenant,
on va mourir. Si tu parles de chef-d'œuvre, c'est pas du tout le bon trip. Mais donc il y a Logan, qui est un très bon film, mais qui est officiellement, qui est la dernière adaptation, on va dire potable de tout ça. Mais ma question à moi, elle est bien plus large que ça, parce que on va revenir un petit peu sur la question des X-Men, qui sont historiquement, déjà chez Marvel, qui était la franchise, qui était le groupe Les Mutants, qui était quand même le côté très jeunes, très rebelle, un peu punk. On avait depuis le début des personnages aux origines ethniques très variées. On n'hésitait pas à parler de personnages avec des problèmes psychologiques vraiment très forts. Ils sont beaucoup dans la publication moins lisses. Ils sont beaucoup moins lisses que ne l'ont jamais été. Et je parle bien de ceci. Dès le départ, parce que il est évident que dans le côté non lisse, Tony Stark d'Iron Man, quand il va se mettre à picoler,
comme
avec
tout
la
l'univers
violence,
des comics dans les années 80-90, voilà.
L'arrivée des 80.
Et sachant qu'ils sont plus vieux, les Avengers.
Les Avengers sont beaucoup plus vieux puisqu'ils intègrent des personnages comme Captain America qui sont ultra vieux.
Ah oui.
Donc voilà, il y a un côté, ils ont toujours eu un angle, une espèce d'axe beaucoup plus punk, beaucoup plus décalé. Alors, et très évidemment, la cote de popularité fait que Marvel a toujours ou insisté d'un côté ou de l'autre. Il y a des époques avec, il y a des époques sans.
C'était classe, les X-Men, moi, dans les années 90, quand j'étais petit. On avait la série animée, là, où ils avaient les gros seins un peu et les gros muscles. C'était un peu hérité d'un style très 90.
Très Rob Liefeld.
Voilà. Mais c'est vrai que le début de la publication des... Je revois ça parce que tu m'en as parlé. Le début de la publication des X-Men, c'est les années 60.
C'est les années 60.
On a le droit de faire de la pub pour un autre podcast.
On a parlé déjà de deux autres podcasteurs, je te rappelle.
J'ai eu la chance de participer à un podcast qui s'appelle Tout en carton, dînait-il avec Kennedy. Oui. C'est un contenu un peu compliqué, un podcast plutôt d'histoire fait par Bruno.
Par Tout en carton.
Où nous avons été invités avec Michi Dark et un autre podcasteur à parler de la contre-culture américaine. Et je repique parce que la contre-culture américaine qui arrive dans les années 60... on va parler de contre-culture cinéma, et j'ai pas trop parlé comics d'ailleurs, moi j'étais invité un peu sur le côté cinéma, sur la jeunesse qui devient, Bruno nous a dit, dans les années 60, la jeunesse devient un corps social très important, et on se met à lui parler.
Mais il devient majoritaire.
Et puis il y a le Vietnam, etc. et tout. Et en fait je suis persuadé que les X-Men sont nés, y compris dans cette contre-culture, où il y a la question de la drogue, la question noire et de la question de sa place dans la société.
On en revient dans les années 60, que les X-Men sont créés en 60. Ils exposent réellement au début 70 avec ce qu'on appelle les nouveaux X-Men et qui amènera après la saga du Phénix.
Ah oui.
Les nouveaux X-Men, c'est l'arrivée de Cyclope, c'est la deuxième équipe, l'arrivée de Logan, pardon, de Serval en français, de Wolverine pour les non-connaisseurs.
Plus personne n'appelle Serval. Voilà. En fait. Il y a que les vieux qui lisaient les comics dans les années 70-80. Voilà.
Mais donc, si vous voulez, il y a une vraie construction des X-Men autour des problématiques d'une jeunesse, d'une forme de la jeunesse.
Rappelons qu'ils deviennent, que c'est des mutants et
qui se déclenchent à l'adolescence, les pouvoirs apparaissent à l'adolescence avec la puberté. Donc, on est vraiment dans une espèce de mise en abîme.
C'est des teens, on est d'accord.
C'est du teen.
À exception près. D'ailleurs, je pense que Wolverine est une exception.
Wolverine est une exception.
Et j'ai l'impression que pour moi, The Beast, le fauve est un peu plus âgé.
Le fauve est un des X-Men originaux. Ouais. Depuis le début, il est là. Sauf qu'au début, il était normal, il était juste très physique. Il y a sa mutation en bleu.
Ouais. Mais c'est des teens.
Mais tous les autres, mais c'est, Scott, c'est le principe.
Jane,
les mutants sont des teens. Tout l'historique va être basé là-dessus. Quand on fait. Quand après, on a tous les arcs qui viennent avec Onslaught, la Legion Quest, l'ère d'Apocalypse, les New X-Men, à nouveau les New X-Men dans les années 2000, quand on va voir, même quand on refait le Ultimate X-Men,
et il se marie vachement.
Alors, l'intérêt, c'est que paradoxalement, à côté de ça, on ne perd pas les figures emblématiques. Exactement, pour le coup, il y a un parallèle à faire avec l'Avenger, c'est que dans les X-Men, on ne perd pas les figures emblématiques. Sauf que Cyclope marie Jean Grey. On a quand même, au début des années 2000, on a le mariage de Cyclope, le truc qu'on attend depuis 30 ans.
Mais c'est vrai que, et ça a été raconté, quand les Avengers existent, l'image qu'on a des Avengers, que ce soit côte ouest, côte est et tout, c'est Iron Man, c'est Captain America, c'est des adultes.
C'est que des adultes, ce sont des dieux, des demi-dieux, des gens qui ont fait la guerre de 45. On est sur un autre contexte.
Et
Logan,
d'ailleurs, on va
faire un parcours particulier d'armes. Militaires qui rentrent déjà dans des petites théories complotistes.
Je vous glisse un truc qu'on va reparler tout à l'heure. Au moment de l'adaptation, c'est une question à se poser intéressante parce que on s'attend à ce que Marvel, même avant Disney, on s'attend à ce que Marvel s'adresse à des teens.
Oui.
Et malgré tout, ils vont prendre des Avengers.
Voilà. Et là où ça devient pour moi la vraie question, elle est que. Les Avengers vont intégrer des éléments de culture asiatique dans certains de leurs méchants. Les X-Men intègrent le super-héros japonais.
Ah oui, comment
Feu du Soleil.
Oui, c'est vrai.
Et là, on parle des nouveaux X-Men. On est juste avant la saga du Phénix. Ils intègrent des natifs américains qui, en plus, ont un discours et des éléments de langage très revendicatifs. Et là, on parle des années 70. Donc
et t'es en train de te demander pourquoi ils ne l'ont pas adapté à Disney.
Alors voilà, pour moi, non, mais moi, ma vraie réflexion, il est que quand tu vois que le seul truc qu'ils ont fait depuis qu'ils ont récupéré la franchise, c'est The Gifted et Légion.
Alors rappelons un truc. Ce qui est intéressant à dire, c'est que les X-Men, en fait, ouvert les films de super-héros.
Oui, c'est eux qui ont ouvert la porte à grand coup de pied.
En 2000.
Attends, non. Alors, on ne va pas dire que c'est un truc bête. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, ils sont venus concrétiser les capacités techniques de réaliser des films de super-héros avec des super-pouvoirs dans tous les sens, que ce qui, pour l'instant, n'avait été... Le Superman Returns était une catastrophe.
Mais il y avait un problème de conception.
D'idée. C'est une idée à la con de vouloir faire la suite de 84.
De suite, tout en n'étant pas une suite, tout en je sais pas quoi.
Enfin, je sais plus. Enfin,
78.
78, pardon. C'était une connerie. De base, c'était une connerie. De ne pas réinterpréter le personnage. Mais les X-Men que font Bryan Singer, quel que soit ce qu'on pense de le réalisateur, c'est un problème.
Ah oui, c'est un problème. C'est un problème.
Ils démontrent la voie. Ils disent on peut faire plein de choses. On peut même faire des gens qui ont des pouvoirs,
ah oui,
qui lancent des rafales optiques, qui volent. Ce qu'on n'avait jamais.
Ce qu'on pouvait pas faire avant 2000.
Ce qu'on n'avait jamais vu à ce point-là.
Compliqué, voilà.
Et c'est ça qui permet après d'arriver à Iron Man. Hein.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ouvre. Il ouvre en 2000. Alors j'ai des petits soucis sur les dates. Il ouvre le premier X-Men qui marche bien et qui est une surprise, mais. Qui va pas être le raz-de-marée Marvel, en fait. Qui va pas être le raz-de-marée Iron Man.
Non.
Le premier X-Men, il est fait en 2000. Y a la question, dans le premier X-Men, des mutants, il y a l'opposition Charles Xavier Magneto, qui sera concrétisée dans X-Men 2, qui date de 2002, du coup, j'imagine. Qu'est-ce que je te dis ?
2000...
Alors, ce qu'on va appeler la première trilogie, effectivement, X-Men 2, 2003.
2000, 2003, 2006,
toujours mené
par
Bryan Singer. X-Men 2, ça s'ouvre sur les camps d'Auschwitz, quand même. D'Auschwitz ou sur les camps de concentration.
Tu confonds avec First Class.
Non.
C'est First Class. Et First Class, c'est 2011.
Oui, effectivement, cette ouverture-là arrivera dans First Class. L'ouverture d'X-Men 2, c'est Diablo dans la Maison Blanche.
C'est ça.
Mais Diablo, la question est quand même très largement... Alors oui, je sais pourquoi j'ai un peu mélangé. Parce que dans les deux premiers X-Men, Charles Xavier Magneto, génialement incarné par... Charles Xavier, c'est Patrick Stewart, formidable. Oui. Et Magneto, c'est Ian McKellen. C'est ça ?
Oui.
C'est Gandalf.
Et Gandalf, Ian McKellen. En First Class, c'est notre ami de Prometheus.
C'est Fassbender qui fait Magneto. Et c'est. Ça y est, j'ai perdu son nom, je connais que lui.
Mathieu Vaughn. Non, je te dis une connerie.
Ça y est, j'ai perdu le qui fait. Qui est un acteur qui fait complètement le taré souvent et qui est très très drôle.
Celui de Split.
Oui, voilà, merci. Ça va revenir, mais dans 30 secondes.
James McAvoy.
En tout cas, il y a une réplique entre Ian McKellen et Patrick Stewart qui dit, Ian McKellen lui dit, j'ai déjà été numéroté quand la question, parce que dans les deux premiers X-Men, il y a la question de numéroter les X-Men, les mutants. Et Magneto lui dit, on m'a déjà mis un code barre, on va pas recommencer. Évidemment, l'évocation des camps de concentration et
intrinsèque aux X-Men à partir des
années 90. Façon, les X-Men, c'est ce que tu as commencé à dire, ne parlent que de ça.
Alors non.
Je ne dis pas qu'il y a de temps en temps.
C'est la question noire. C'est la question de l'identité par rapport au reste des communautés et du respect de ton identité. Voilà. C'est donc la question noire, la question de l'identité.
Attends, il y a autre chose avec la question noire. Il y a quand même deux visions. Du mutant, il y en a un qui dit il faut cohabiter avec les non-mutants et l'autre qui dit non, il faut les éradiquer, ils nous font chier.
On est sur la dichotomie King-Malcolm X, voilà. Je suis d'accord.
Donc cette création n'est que politique. D'ailleurs, c'est des jeunes auteurs à l'époque qui, à mon avis, fumaient des trucs. C'est un peu les années 60-70, c'est la contre-culture. Les mecs, évidemment, ils ne parlent que de ça. Je ne suis pas sûr que les auteurs des Avengers étaient là-dessus.
Alors, oui et non, parce que de toute façon, les Avengers, à l'époque, ont un tracé qui est quand même beaucoup plus sobre, linéaire, très super-héroïque, traditionnel. Et quand dans les années 90, alors je ne sais plus quel auteur a réintroduit dans un des reboots le passé de Magneto qui était lié au camp, ce qui n'a pas été le cas dès le départ, c'est quand même, il remettait en perspective le même questionnement, il redonnait un fondement au questionnement des super-héros. Et c'est à partir de là que la vraie question, du coup, même si dès le départ, Chris Claremont, dans les années, que je dise pas de conneries, le
rôle de Chris Claremont,
ouais, c'est ça, fin 70, début 80, a déjà lui, comme tu dis, la question raciale dans son premier run.
Bon, après, ça n'empêche pas des trucs qui partent un peu en. Enfin, au bout d'un moment, ça part pas en. C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que je veux dire, heureusement qu'ils ont des aventures qui parlent d'autre chose.
Oui, oui.
Il y a des trucs un peu très
super-héroïques. Qui est bien plus politisé que ne sera que ne l'a jamais été les Avengers, même si dans le même, à la même époque, ils vont tenter de donner du fond aux Avengers.
Mais du coup.
Leur traitement, il est différent. Et on en revient à la question du MCU, où sont passés les X-Men. Quand le MCU décide de s'attaquer à Civil War, qui était quand même un crossover dans lequel on a Avengers et X-Men, puisque c'était un des plus gros crossovers depuis très longtemps.
Je ne les ai pas vus dans Captain America Civil War.
Alors, ils ne sont pas dedans.
Alors, à l'époque, ils n'avaient pas le droit.
À l'époque, ils n'avaient pas les droits. Ça, il faudrait vérifier la date de sortie.
Je crois qu'à mon avis, à l'époque, ils n'avaient pas les droits.
Mais Disney a vraiment racheté. Après, la Fox.
Je rappelle, on va être méchant, mais de temps en temps, que la Civil War, la guerre civile de. Du MCU,
c'est 6 mecs de face à face dans un aéroport.
C'est 10 mecs dans un aéroport
qui se tapent. Et on en vient au fond du truc, c'est. Civil War aurait pu permettre d'apporter, d'en faire entrer des personnages, de faire apparaître des choses. Le choix de Disney et de Marvel à ce moment-là est de ne pas le faire.
Je pense que Disney,
je pense que
Marvel
Disney a une peur absolue, mais quand je dis absolue, c'est vraiment énorme, de traiter les questions que soulève réellement le comics des X-Men. Et tu ne peux pas ramener les X-Men sans les évoquer.
Il faut imaginer Disney à bord, Disney Marvel. Alors, je ne fais pas de différence parce que je pense que la politique avant qu'il soit racheté était la même. Je pense pas qu'il
y a pas beaucoup de variables.
Entre Kevin Feige,
ils ont gardé tout le monde donc.
Black Panther, c'est 2020
2012. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posé.
N'importe quoi. Excusez-moi. Black Panther, c'est
2018.
Black Panther, premier super héros noir.
Officiel.
2018. Comment tu veux que quand ça démarre en 2000, les mecs s'attaquent à la question noire, à la question à la question mutante, qui effectivement ne peut être plus que comme ça, sinon ça n'a aucun intérêt. Comment tu veux qu'ils fassent pas ça? Évidemment qu'ils vont jamais prendre les X-Men. Alors il y a aussi
la preuve. Le seul traitement de la question noire intéressante avant Black Panther, c'est Luke Cage. Et c'est une série qui est sur Netflix, qui a une licence Marvel qui vient d'ailleurs de revenir chez Disney avec des Daredevil et les Jessica Jones.
Il y a un autre élément, c'est que quand effectivement quand il lance Iron Man alors il y a Hulk, même si le Hulk d'Anglie est pas considéré, Iron Man, le Hulk de Le Terrier, enfin les quelques films avant Avengers 2012, là je suis sûr de la date. Parce qu'on était en salle et qu'effectivement ça a été un événement fort. Il faut se rappeler qu'au même moment en 2012, les X-Men ils sont au fond. Parce que la problématique de X-Men, c'est qu'il y a des films qui ont été faits et que oui, c'est bien ce que je dis. Parce que quand même 2009, c'est bien que tu me le remettes. On a X-Men Origins Wolverine. Alors comment
dire ?
On a enchaîné 2006. Heureusement que tu me l'as mis sous les yeux parce que j'avais dû oublier. 2006, Brett Ratner qui fait X-Men The Last Stand.
Le dernier combat, ou je ne sais plus quoi. Là.
Comment ils l'ont appelé en français ?
Je ne m'en souviens plus, mais c'est je l'ai vu.
L'affrontement final.
L'affrontement final. Comme ça. C'était une horreur.
Et l'autre, 2009. Et là, par contre, quelque part, Disney peut dire, vous avez vu quand ils essayent d'écrire des trucs. Effectivement, le X-Men 2, est le plus réussi. Avant First Class, pardon. X-Men 2 était vraiment intéressant.
Il était sympathique.
Mais. Les mecs, l'espèce de confrontation ultime. On en revient un peu au problème du Civil War. La confrontation ultime de Magneto qui. Machin. C'est, alors, ils sont plus que 7. Mais enfin, ils sont 50 mutants sur une île où ils déplacent un pont.
Oui.
Après.
C'est plus que ça. En plus, le cadrage fait que des fois, ça se résume à 10 personnes face à face.
Une vague apparition du phénix où tu dis. Et... Ah bon, c'est tout bon, d'accord. Bref, en fait, ils sont passés à côté du sujet. Moi, je peux comprendre, Feige, il dit, non, mais attendez, on va pas faire ça.
À l'époque, c'est encore la Fox qui est à 100% derrière, je précise aussi. La preuve, c'est très intéressant, c'est qu'après les échecs ultimes donc, de Last Stand et de
X-Men Origins.
X-Men Origins de Wolverine, ils vont faire un reboot en moins de 6 ans de production en faisant First Class.
Et qui est très réussi.
First Class,
qui est porté par.
Avec Fassbinder, avec McAvoy.
Qui est porté par Matthew Vaughn. Et leur place dans les années 60, ce qui était peut-être une bonne idée.
Et c'était une excellente
idée.
Parce que
c'est en pleine crise de Cuba.
Exactement. Ils utilisent et ils reviennent à l'essence du coup historique des X-Men en les recontextualisant vis-à-vis de la politique, en gardant ce combat avec ou sans les humains pour le mot supérieur. Et là où c'est extrêmement malin, c'est que c'était très malin. C'était bien lancé. Ils font un petit pas de traviole en 2014 quand ils font Day of the Future Past. C'est que ils vont pas jusqu'au bout de la logique, malgré un casting de ouf. J'aime beaucoup Day of the Future Past parce qu'on a.
C'est chiant.
T'as aucun goût. Non, mais
il y a un côté. Je sais plus, mais moi je l'ai vu, j'en ai un vague souvenir, ça m'avait semblé chiant. Non, j'ai eu l'impression de revoir le même film que First Class en fait.
Alors, moi je vais aller beaucoup plus loin, c'est pas vrai. C'est que ce film a un vrai souci. Il y a Omar Sy dedans, c'est le même souci qu'avec BVS. BVS, faut pas voir l'original, faut voir le director's cut. Celui-là, faut voir la version longue. Bon, parce qu'il manque des séquences d'explication, une construction scénaristique.
Apocalypse aussi, faut voir la version longue.
Apocalypse, faut pas le voir. C'est une apocalypse.
Non, mais en fait, le First Class marchait. Par contre, le First Class, et on en revient à ce que je disais en me trompant tout à l'heure,
la contextualisation.
Le First Class prend le problème du mutant, du machin, du truc, à bras le corps et réussit. Mais je pense que ça peut pas être des films aussi grand public. En fait, je pense que vraiment, il y a un truc où le MCU, c'est vrai que l'idée de. Pourquoi prendre les Avengers ? D'abord parce qu'ils ont démarré avec Iron Man. Je ne sais pas si c'était... on ne saura jamais si quand ils font Iron Man, ils se disent « c'est sûr, on fait les Avengers » ou ils se disent « bah tiens, si ça marche... »
C'est un coup d'essai. Non, Kevin Feige a déjà dit en interview « c'est un coup d'essai ».
Si ça marche, ça peut être rigolo avec la fameuse scène post-générique avec Nick Fury. Sauf qu'effectivement, les Avengers, c'est des vieux, c'est des blancs. C'est des vieux blancs.
Jusqu'à l'arrivée de Black Panther, tu n'as... Que bon, du 6,
t'as Black Widow, bon.
Voilà. Ou alors, on va pas parler du traitement de Black Widow dans Iron Man 2.
Voilà. Non, et c'est des trucs où ils en font un rassemblement de héros. Effectivement, il n'y a rien de. C'est lisse. Moi, j'ai vu Avengers en salle, j'ai pris un vrai plaisir parce qu'on n'avait jamais vu ça. Sorti de ça, moi je revois le film qui est plutôt bien écrit par Whedon, c'est quand Whedon savait écrire les équipes. C'est quand Whedon savait écrire la constitution de l'équipe dans Avengers, elle marche.
Ouais.
Alors c'est aussi peut-être un problème que je vais soulever avec X-Men. La constitution de l'équipe dans Avengers, elle marche, ça marche bien. Mais effectivement, ils sont tous lisses, voilà. T'as Robert Downey Jr., bon, ou Iron Man, ou Tony Stark, je sais jamais c'est lequel en fait.
C'est le même. Voilà. Je pense que cet homme ne sera plus jamais autre chose.
Que Tony Stark, mec, c'est mort.
Il a essayé de faire Docteur Dolittle, c'était raté.
C'est Tony Stark, tu dis quand est-ce qu'il met son armure. Mais oui, avec son passif, un peu alcoolique, mais c'est tellement léger. Le problème, c'est que Marvel ne peut pas rentrer dans des thématiques aussi violentes. Doctor Strange, ils en ont fait. Il est censé être aussi pas bien.
Alors, Doctor
j'aime
Strange.
Bien, j'adore que Benedict Cumberbatch. Hein.
Alors, le Docteur Strange qui nous a fait était quand même gentiment torturé. Les images pouvaient être un peu dures sur ses mains.
Mignon, hein. Non.
Alors, à l'échelle du MCU,
ah oui.
On était quand même dans un personnage qui était gentiment dark. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que du fait de leur orientation, ils ne peuvent pas... On parlait tout à l'heure de la mise Zack Snyder en coup de cœur pour la Justice League. Typiquement, oui, tu ne peux pas faire une... Tu peux pas imaginer la création des X-Men sans rentrer dans la même problématique et une forme de noirceur et de dureté que tu as dans la constitution de la
Justice
League. Ils
veulent pas faire dans MCU.
Et le MCU, ils en ont rien à foutre.
J'ai remarqué d'ailleurs que la Justice League, c'est un Hawaïen. Bon, c'est pas... Je trouve les Atlantes... je trouve étonnamment Hawaïen. Si, il est Hawaïen, je crois, il me semble.
Samoan,
peut-être moins. Il y a un Samoan, une femme.
Oui.
Il y a un vrai rôle.
Oui.
Un Black, qui est joué par...
Cyborg.
Et puis t'as quand même
Batman, Superman, Batman, un schizophrène et un extraterrestre.
Voilà. Et du coup, bah ouais, c'est quand même, ils sont moins lisses que.
Mais ils sont alors, moins lisses.
Il y a un autre truc quand même qui est embêtant dans les X-Men, c'est que les X-Men ont. Alors, je connais pas du tout les comics Avengers aussi bien que ce que j'ai pu lire X-Men. Je connais pas tout X-Men, mais j'en ai lu. Je vais faire exprès de prendre d'être trash parce que, enfin, d'être excessif. Il y a un côté hyper télé-novelas dans X-Men. C'est-à-dire qu'X-Men.
Ah, oh, bordel.
Alors, entre le côté teen, parce qu'évidemment, tu fais une école avec des teens, bah, ils sont tous amoureux les uns des autres. Je suis désolé, il y a quand même une espèce de triangle amoureux chelou entre Scott, Jane et Wolverine, d'ailleurs.
Non, mais attends, il y en avait un avant. Avant, il y avait Iceberg aussi. Hein.
Je me rends même si Avok, à un moment, ça n'a pas posé problème, le frère de Scott. Il n'y avait pas eu un truc chelou.
Non, Avok sort avec Polaris.
Il y a des trucs.
Vie avec Polaris.
Si, d'ailleurs, on peut le voir dans Vanda Vision, d'ailleurs, parce que Vanda et Vision, il me semble, ont été des. Ah non, non, j'ai une connerie.
Non.
Non, mais
la Sorcière Rouge apparaît comme ennemi à un moment aussi.
Oui, c'est X-Men. Ça. Mais du coup, les X-Men, il y a eu beaucoup de problématique de relationnel. Charles, ça a été quand même très compliqué. Parce que mais... la relation qu'a Charles avec Magneto, elle est hyper ambiguë. Enfin, ils se respectent et à la fois, ils ne sont pas du tout la même portée politique, mais à la fois, c'est les mêmes. Charles, il a été amoureux d'une...
De Moira MacTaggert.
Voilà, de Moira MacTaggert.
Il a été amoureux d'une de la reine Skylar.
Voilà. Des... Mais il y a un côté hyper telenovelas qui est...
mais qui est assumé.
Oui, mais qui est hyper difficile à adapter. On, quoi, en, revient, hyper difficile ouais, à
on en revient du coup à l'origine même du site des X-Men, qui est les X-Men sont des ados qui sont repérés par Charles Xavier, qui les emmène dans une école pour leur apprendre, un, continuer leur éducation, deux, oui, apprendre à maîtriser leur pouvoir, et dans cette maîtrise de pouvoir, doit passer pour servir la communauté.
En plus, il y a un côté...
Par les X-Men.
Ça me fait un flash tout d'un coup, et je trouve que c'est assez bien montré dans les films. C'est tous des mecs à problème, en fait.
Mais c'est
je pense à une scène du film, je pense, qui est spécifique, si tu veux, à... Comment elle s'appelle, Malicia.
Oui.
Malicia, c'est une ado, très jolie. Je ne sais plus par qui elle est jouée, d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire. C'est une actrice que j'ai oubliée, mais bon. Malicia, c'est une ado, elle est amoureuse de son copain et tout. Il la ramène chez elle, c'est mignon, c'est une après-midi, alors pas du tout, voilà. Il s'embrasse, qu'est-ce qui se passe ?
Elle lui absorbe ses pensées.
Et le mec, hop, coma, quasiment, enfin, il s'écroule, oui, oui, et coma. C'est des gens qui ont des problèmes.
Mais tu vois, tout à l'heure, je l'évoquais rapidement, mais du fait de l'évolution historique et de la société, ils ont fini par donner des problèmes aux Avengers, oui, alors que par défaut, les X-Men se constituent au-delà de leurs problèmes et de leurs différences. La question de la mutation et de la différence par rapport aux autres est au cœur des X-Men, ce qui n'est jamais le cas du côté des Avengers. Ils ne se constituent pas comme ça. Ils sont constitués par un millionnaire qui se fait une armure pour sauver le monde et d'un soldat, d'un super soldat qui a choisi par choix en 39, de devenir un super soldat. Donc on est quand même sur des... Oui, il y a un énorme écart. Et je pense que...
Sur un dieu.
Et sur un dieu arrivé sur Terre, c'est pareil, la logique derrière ça est très étrange.
Le mec, Thor, il a des problèmes, mais enfin, bon, je viens, il a des problèmes de famille. En fait, il a des problèmes mythologiques, d'ailleurs, c'est un peu plus seul, mais...
Ah bah, mythique.
Mais voilà, non, mais c'est vrai que du coup... C'est clairement pas un matériau adaptable. C'est clairement pas
Je suis pas d'accord, c'est adaptable. Mais pourquoi ne l'intègre pas ? Je pense qu'il y a un vrai choix politique de ne plus rien faire des X-Men pour l'instant. Je suis intimement convaincu que si The Batman marche...
Légion. Légion, c'est intéressant. Hein. Légion,
c'est intéressant, mais c'est pas vraiment du X-Men.
Non, mais ouais, sauf que c'est connecté un peu à X-Men, plutôt.
Bah, c'est parce que connecté, c'est supposé être le fils de Charles Xavier.
Hein ? Bon... Je crois pas que la série respire le fun et la joie de vivre. Hein.
Non, c'est une série schizophrène. Au sens historique, au sens de l'histoire, hein, je précise.
Non, mais le mec, il est complètement limité, quoi. C'est...
Il y a tellement... Moi, j'ai aimé Légion. Hein, parce que ça, justement, je en tant que vieux fan des X-Men, je vois des interconnexions, je comprends où ils vont, je comprends ce qu'ils s'amusent à faire. Mais j'aimerais tellement avoir des films... qui soit ou une intégration dans le MCU des X-Men sans que ce soit trop catastrophique.
Ouais, mais c'est quand même sacrément le bordel. En plus, les X-Men ont abordé le voyage dans le temps. Hein,
Endgame.
Ah non, mais mieux. Enfin, pas mieux.
Endgame.
Ouais, alors Endgame.
Endgame.
Non, mais...
Avec Bishop.
C'est pas Bishop qui arrive du futur.
C'est Bishop et Cable.
Et qui dit pas qui il est.
Oui.
C'est Bishop, je sais plus c'est lequel.
C'est Cable.
C'est le fils de... Tornade et de... Non,
alors non, c'est plus compliqué que ça, mais oui, de toute façon, alors, ils ont...
Je dis que c'est les télénovelas.
Oui, il y a Cable, qui est aussi le fils de Charles Xavier, qui enfin,
est...
Si.
Ah, oui, d'abord.
Mais, enfin, voilà, c'est... Oui, il y a un historique... Alors, comme problème, toutes les séries, pour faire des crossovers et des renouvellements, ils ont dû puiser dans toutes les techniques.
En fait, la problématique, quand ils ramènent Speedy dans Civil War, Spider-Man... Bon, c'est Spider-Man. Spider-Man, c'est un lycéen qui est amoureux de sa voisine et qui a des pouvoirs. Ouais, Spider-Man, ça pète pas plus haut que ça. C'est mignon, hein, mais c'est un lycéen d'ailleurs. Comment tu veux ramener les X-Men sans ramener tout le bordel qu'il y a à côté ?
Bah, je reste
c'est hyper difficile. Hein.
Je pense, je suis intimement convaincu. Alors,
et la représentation, alors, ils vont se.
Prospective à deux balles. On est actuellement avec la sortie de Doctor Strange The Multiverse par Sam Raimi.
Donc il nous aborde les multiverses.
Le multiverse. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que un des premiers crossovers et une des crises majeures et d'un reboot est constitué par la sorcière rouge.
Ah ouais.
Qui reboot une partie de l'univers de Marvel
avec les
X-Men.
Elle élimine pas tous les mutants.
Alors elle bloque la mutation, il n'y a plus de nouvelle génération de mutants. Donc tu vois, on pourrait très bien imaginer que Disney, dans une perspective à moyen terme, s'amuse avec le crossover, le multivers, avec l'explosion du multivers, de justifier l'arrivée de mutants par ce qui peut se passer dans ce film. D'autant plus que les images qu'on voit sont pour le coup effroyablement bordéliques.
Mmh.
Là, honnêtement, ça va dans tous les sens. Avant, on se plaignait souvent que les bandes annonces des films Marvel avaient tendance à donner beaucoup trop d'infos. Là, pour relier tout ce qu'on voit,
c'est compliqué.
C'est compliqué.
Mais
hein.
C'est vrai que je suis en train de me dire que ça fait. Donc, on a dit 15 ans qu'il y a le MCU.
Oui.
On n'a pas vu un mutant. Sauf même chez Deadpool.
Chez Deadpool, il y a Colossus.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a Colossus et,
pareil,
et
hein.
Deux autres.
Connexion. Hop, Colossus, il est quoi?
Russe.
Quand les X-Men l'amènent, il y a une volonté politique.
Les nouveaux X-Men, c'est un russe à l'époque du rideau de fer.
Et ça pose problème.
Et le questionnement quand Xavier va le chercher, il est très problématique puisque Piotr, puisque c'est son nom d'origine, oui. Se pose la question de son allégeance. Et c'est logique. Enfin,
Donc, effectivement, forcément, le MCU, je dis Kevin Feige parce que pour moi, c'est le patron du MCU, n'a aucune envie de se coltiner avec tout ça. Il a envie de faire des gros. Je suis méchant, il a envie de faire des gros films pouet-pouet. Alors,
ouais, mais c'est pas gentil.
Et là, je refais une parallèle avec mon fameux Spider-Man No Way Home, qui cartonne un truc de malade. On sait pas. Pourtant, avec la période, en fait, tout le monde s'est un peu demandé comment. Et on s'est aperçu qu'il y avait des jeunes de 25 ans, moi je classe ça en jeune, je suis désolé, qui y allaient avec nostalgie. Et là, tu te dis, attends, comment ça se fait?
Alors,
que des gens qui ont 25 ans soient nostalgiques. Et en fait, on en revient aux problématiques que depuis qu'ils ont 10 ans, ils voient le MCU.
Oui.
Donc eux, le MCU, alors...
On est nostalgique des Cosmo 4, on est nostalgique de Kassan Kokai, ils sont nostalgiques des films
de Sam Raimi,
de Sam
des
Rémi.
Années 2000 et tout, parce que voilà, ils les ont vus tôt.
On est juste vieux.
Voilà. Et en fait, ça veut dire qu'en 15 ans, ils ont réussi à rendre leur public nostalgique, et un public de 25 ans qui commence à regarder des trucs par nostalgie, c'est balèze, parce que les quadrilles, ils vont aussi par nostalgie.
Mais on va aller plus loin. Tu veux les ceux de 25 ans. Moi, j'ai été voir Spider-Man No Way Home avec ma fille, 15 ans, mon fils, 9 ans, et tout le monde a trouvé de quoi manger.
Et ton fils, Sam Raimi, il n'en a rien à péter.
Rien à péter.
Ça l'a fait marrer, parce qu'il y avait 3 Spider-Man.
Oui.
Mais comme l'avait dû faire marrer... l'excellent animé
Bah oui, lui par contre il adore Spider-Man Into the Spider-Verse.
Voilà, mais il n'y a pas le côté Spider-Man Into the Spider-Verse, pardon, il n'y a pas le côté nostalgie, parce que c'est, il y a le nostalgie pour les pointus qui disent, ah je reconnais que c'est Gwen Stacy qui est en Spider-Man.
Gwen Stacy en Spider.
Voilà, il y a
Spider-Gwen.
Voilà, il y a le Black Spider, enfin il y a
Il y a le Peter Parker des années 80, voilà. Le Peter Parker des années 60.
Mais là, le MCU, ils ont réussi, ils commencent à faire de la nostalgie. Alors, moi, je ne trouve pas que c'est bon signe.
Alors, ce n'est pas bon signe, ils ne pourront jamais refaire ce qu'ils ont fait là.
Il y a eu d'autres films qui prouvent qu'ils essayent d'autres choses. Après, on a un public, on est aujourd'hui dans des périodes où on a très envie de nostalgie parce qu'on s'inquiète de ce qui se passe autour de nous, à juste titre,
oui.
Sur plein de choses. Voilà. Donc, on a tendance à se réfugier avec plaisir. Alors, ils ont du bol, ils ont casté des acteurs qui ne vieillissent pas.
Trop.
Bon, si, Tobey, il a pris un petit coup quand même. Voilà. Bon, Andrew, ça va.
Andrew Garfield, ça va.
Mais il y a déjà 10 ans d'écart entre les deux trilogies. Ouais. Tobey, bon, nous faire croire qu'il a encore 20 ans.
Mais tu vois, on en revient bien à la question ultime.
Pourquoi ils n'ont pas de-aged d'ailleurs? Pourquoi ils n'ont pas fait du de-aging à Tobey?
Parce que je pense honnêtement qu'il y en a quand même un petit peu dessus.
Ah.
Je pense que c'est très léger.
Il paraît maintenant qu'il y en a qu'on ne sait pas en fait.
Bah oui, parce que.
Y compris en France. Je dirais rien, mais France, il paraît qu'il y a des acteurs ou des actrices françaises qui feraient du de-aging qu'on ne sait pas.
Allez, sur les plateaux de télé,
autrement
sur du direct.
L'éclairage.
sur des plateaux directs, il y a des unités de retraitement directement au cul des caméras pour que même pendant les directs,
pour que ça lisse un peu les rides.
Ça lisse les rides, voilà. ça fait un minimum de de-aging. Donc, il ne faut pas rêver, pendant les tournages, il y en a.
Mais du coup, est-ce que le public d'aujourd'hui MCU va être assez mature pour accepter des questionnements ? Alors, il l'a fait avec Black Panther.
Alors, non.
Même si c'était gentil.
Alors, c'était gentil. Non, alors je dis non de façon très tranchée parce que pendant Black Panther, Black Panther était un film centré sur un héros noir dans un global majeur qui était le MCU. On n'avait jamais vu ça. Le personnage était bien traité et il présentait ce qu'on appelle une utopie africaine. Bon, c'est un nom précis, c'est cette science-fiction africaine qui présente une Afrique développée sans le massacre colonialiste.
Le
futurisme africain.
Oui,
un truc comme ça. Bon, je suis désolé pour le nom, mais voilà, il présentait ça de façon ultra positive.
L'afrofuturisme.
Donc, l'afrofuturisme, voilà. Et du coup, c'est le film a trouvé son public à travers le monde, et c'est normal. Ça n'avait jamais été abordé comme question. Tu regardes Shang-Chi, on peut en penser ce qu'on veut. La première partie sur la première partie qui se passe à San Francisco avant qu'ils partent chercher le machin, que la quête des anneaux l'amène dans le monde tout inconnu, c'est super intéressant parce que Shang-Chi, le personnage principal, s'oppose à son passé qui est d'immigré asiatique aux États-Unis.
Ils sont quand même assez malins. Après,
ils cherchent à taper large.
Après, c'est facile. J'ai pas vu Shang-Chi, j'ai vu que Black Panther. C'est bien traité, on a déjà dit, mais Black Panther, le seul défaut de Black Panther, c'est que tu dis en fait, mais le méchant il a raison. Bon, voilà, c'est peut-être intéressant dans un film, mais des fois là c'est un peu bizarre. Mais c'est pas compliqué. Là, se payer des trucs sur les X-Men ou la diversité.
Alors, tentative de diversité, c'est les Eternals.
Ouais,
Sont très, pour le coup, on a toutes les ethnies, asiates, indiennes, africaines, et on a surtout le black gay, donc on a la double casquette.
Ouais, ils ont tapé fort là.
Mais surtout, c'est explicite. Il y a du baiser, c'est ce qui a fait râler au moment de sortie des Eternals. Il y a un baiser homosexuel avec un mec en plus qui a plutôt l'air arabe que noir. Donc on cumule bien les trucs.
Bon, le box-office n'était pas mauvais.
Il était propre.
Bon, ils peuvent continuer. Alors effectivement, peut-être que. Et en fait, c'est
on
ça
en revient à la question de la diversité. Ils vont devoir. Il y a un ou un autre, mais ils vont devoir changer de paradigme.
Peut-être qu'ils sont mûrs. Peut-être que c'est maintenant et que c'était pas faisable en 2012.
On n'en revient à mon interrogation vis-à-vis du multiverse. Quand on voit les séries Loki ou WandaVision, quand on voit la scène post-générique des Eternals, il y a un potentiel pour créer l'événement Wanda qui, normalement, dans les comics, coupe la possibilité d'avoir des mutants qui pourraient très bien être retournés et nous faire apparaître les mutants.
En fait, là, elle
déclencherait les mutations.
Oh, c'est marrant comme idée. Entre
nous, soit dit, ce qui. Allez. Voilà, c'est de la prospective à deux balles. Hein. Ouais. Mais Monica Rambeau, dans la série WandaVision, obtient ses pouvoirs en franchissant le mur de protection que Wanda a élevé autour de la ville.
Ah ouais.
Elle l'a fait muter.
Ah d'accord, ah ouais, effectivement. Je n'avais pas vu ça comme ça.
Alors là, c'est de la prospective. Bon, la question de fond, c'est pourquoi avoir entendu autant ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas, à un moment ou un autre, choisi de développer ces axes-là d'une autre manière, de le valoriser ?
Et parce que je pense qu'ils ne se sentaient pas prêts.
Et puis ils en avaient rien à foutre, ils avaient une vache à lait.
Ils commençaient à être, ils étaient toujours frileux. Ça avait été des échecs critiques. De box-office, je ne suis pas aussi sûr que ça, mais globalement des échecs critiques assez violents. Alors il faut dire que les échecs critiques, je pense que la Fox à l'époque laissait, à l'inverse de Disney, Disney, les réalisateurs, on s'en fout complètement en fait. Disney qui réalise le film, ça a très peu d'intérêt. Alors,
très
si on va me dire oui, les Eternals, celui c'est la
oui, et Sam Raimi qui arrive,
oscarisé, et Sam Raimi, je suis pas sûr qu'il fasse autre chose que ce qu'on leur dit.
Oui.
Joe Johnston, il était très gentil, il a fait un Captain America qui était tout à fait regardable, mais enfin c'était pas voilà. Par contre,
je crois que Joe Johnston avait
la Fox laissait à l'époque un peu, je pense, un peu plus de présence à ses réalisateurs. C'est pas une bonne idée, hein, parce que quand t'as Brett Ratner. Quant à l'autre Gavin machin qui a fait le X-Men Origins,
Brian Singer, James Mangold pour le Wolverine, le combat de l'immortel.
Il y a que Matthew Vaughn qui s'en est sorti un petit peu.
Et sinon, James Mangold quand il refait Logan derrière.
Voilà. Sinon, ça a été Josh Trank quand même. Hein. On n'en a pas parlé. Hein. Josh Trank et les 4 Fantastiques. Hein.
J'ai oublié les 4 Fantastiques.
Il n'en a pas un super souvenir, Josh Trank. Hein.
Tu m'étonnes.
Et donc, en fait, la Fox ne savait pas gérer. Ce que c'est faire son, ce que c'est faire le MCU, ne savait pas gérer son univers, ne savait pas gérer ses réalisateurs. Le MCU sait les gérer dans le sens où ils ferment leur gueule, pour être très clair, pour des produits, alors à mon avis c'est ça le problème, c'est qu'on, sur des produits quand même plutôt calibrés, plutôt soft, alors ils arrivent aujourd'hui à avoir des produits calibrés qui commencent à s'ouvrir un peu, donc peut-être que c'est le moment. Est-ce que ça va être aussi intéressant? Est-ce qu'ils vont arriver à ce qu'a fait First Class, à ce qu'a fait
X-Men 2
ou Logan? Ben, je suis pas sûr, moi. Donc, est-ce que ce serait vraiment une bonne idée? Ben, c'est pas sûr, parce que est-ce que Disney est aussi autant prêt que ça à aller dans des questionnements compliqués de
l'univers? Bon, on est bien d'accord. Je suis pas sûr. Le fait qu'ils n'utilisent pas les X-Men, c'est d'abord un choix strictement politique lié à l'histoire de ces personnages.
Oui, ouais, complètement.
C'est pas possible, quoi. Mais...
à voir, mais moi je suis pas très très optimiste.
Cet épisode 34.
Oui.
Donc, on va rappeler un tout petit peu les enjeux. C'est donc, si vous pensez comme moi que Disney a vraiment une opportunité et devrait s'ouvrir aux X-Men dans le MCU, bah, vous votez pour moi, comme d'habitude.
Et si vous pensez que non, parce que Disney restera dans des films trop lisses et que ce sera trop compliqué à intégrer et que, au vu de tout ce que c'est que les X-Men, ils n'y arriveront pas à intégrer ça de manière. Et en fait, ils ne vont pas s'embêter à se compliquer la vie, votez pour moi. Donc pour voter, c'est sur le site, comme d'habitude. www.thebroclash.fr.
Exactement.
Thebroclash.
Vous votez au bas de l'article de l'épisode. Comme vous le savez, normalement, cet épisode 34 aurait dû être notre épisode de sortie de confinement, mais ça fait un moment. On n'a pas oublié qu'on doit cumuler les votes des épisodes 32 et 33 pour un. Donc on va cumuler les votes de ces trois derniers épisodes pour vous faire un truc un peu plus encore travaillé, là, pour le 35.
Bon, alors...
vous pouvez venir nous faire des réflexions sur le Twitter du Broclash. THEBROCL. ASH
qu'on va réveiller pour l'occasion. Alors, on va faire de la promo. Alors, faire de la promo croisée, je vais faire la tienne. Moi, j'en ai moins. Mais du coup, on peut te retrouver, toi, Arnaud Doucet, sur Rekozik, R-E-K-O-Z-I-K, avec Ororo, à part les musiques. Alors, je vous préviens, si vous aimez Michel Sardou, vous risquez de pas trop apprécier le podcast. Hein, c'est possible. Hein, parce que ça. On est quand même sur de la musique pointue. Voilà. Après, il y a tout, il y a du Nirvana aussi, il y a plein de choses.
Il y a plein de choses, mais c'est vrai qu'on est plus...
Voilà. Ou tous les deux, vous échangez sur des recommandations et puis des petits trucs en plus.
On fait deux recos par épisode. Ouais. Ça dure un peu une heure ou un petit peu moins ou un tout petit peu plus. Et on rajoute des petits trucs en plus.
Il y a des tops qui sont rigolos.
Et tous les tiers d'année, on fait un épisode top. Ouais. Voilà.
Donc c'est Rekozik, vous cherchez le Twitter et le podcast.
R-O-K-O-Z-I-K, voilà.
Et donc toi, on peut te retrouver sur Twitter sur...
Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter.
Toi, c'est Laurent Doucet, L-A-U-R-N-T-D-O-U-C-E-T. Donc, moi, on a parlé de Michidar, qui est du podcast Stucom, Dragon Hard Rock, du podcast 24 FPS.
Stucom, c'est écrit.
Je vous conseille vivement d'aller les écouter.
Tout à fait. Stucom, c'est S-T-O-U-C-O-M.
C'est tout comme,
c'est tout comme, voilà. Stucom.
J'ai une magnette sur le frigo.
Voilà. Ben, merci beaucoup et puis...
portez-vous bien et à très vite.
À très vite.
Alerte spoiler.
Rebonjour, petite scène post-podcast. Alors voilà, quand on a enregistré l'épisode avec Laurent, on n'avait pas vu le Doctor Strange and the Madness of the Multiverse. Moi, maintenant, je l'ai vu et je dois avouer que j'ai vraiment senti le besoin de se faire ce petit ajout parce que, vous vous en doutez, avec l'énorme segment central du film, autour de la Terre où il y a donc Capitaine Carter, le Dr. Reed des 4 Fantastiques, ce Capitaine Marvel différent et surtout ce
Professeur Xavier, interprété par Patrick Stewart, donc l'acteur qui les jouait déjà dans les autres films, et aussi Black Bolt, interprété par l'acteur qui le jouait dans la série des Inhumans, cela change pas mal de choses. Déjà, pour Disney, ça leur permet, eux, de faire valoir l'existence des licences. Et deux, ça leur permet aussi de démontrer que les licences ne sont pas mortes et de les utiliser à temps plein. Je pense que c'est ta manière de les introduire leur permet aussi, vu comment finit le film, de démontrer qu'ils pourraient faire apparaître des mutants dans différents univers, voire même faire des films mutants qui seraient plus ou moins raccordés, voire qui auraient des films où d'un seul coup on aurait une fusion d'univers avec les mutants. Vous dire que ça me ravit, c'est clair, parce que j'espère vraiment voir arriver les X-Men et les X-Force et tout l'univers des X-Men dans le MCU. Je pense que c'est un des éléments qui manque le plus et qui permettrait d'arrêter d'avoir des films qui sont solo un peu mous parfois, mais d'avoir du coup plus de diversité dans des intrigues un tout petit peu moins qui mettraient pas nécessairement l'univers en question, mais du coup d'avoir plus de choses intéressantes, un peu comme ce qui s'est passé au tout début sur les premiers Spider-Man. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence post-podcast. Vous pouvez reprendre une activité normale.
Old friend.